Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de Mélomanie, votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. La fin du mois de septembre et les premières semaines d'octobre sont traditionnellement l'une des périodes les plus chargées de l'année en termes d'événements musicaux. Je rappelle que jusqu'au 5 octobre se poursuivent les représentations de Thaïs, l'opéra de Jules Massenet, à l'Opéra National du Capitole. La 11e édition du festival Passion Baroque a lieu du 2 au 12 octobre à Montauban et dans le Tarn-et-Garonne. L'Orchestre National du Capitole vient de lancer sa saison samedi dernier à la Halle au Grain, à l'occasion d'un concert dirigé par Tarmo Peltokoski. Le premier concert de la saison des Clés de Saint-Pierre a été donné lundi à la Chapelle des Carmélites. Et puis ce mercredi 1er octobre s'ouvre la 30e édition de Toulouse des Orgues, avec une trentaine de concerts et propositions en tout genre dans divers lieux patrimoniaux de la Ville Rose et dans sa périphérie jusqu'au 12 octobre. Pour en parler et vous présenter la programmation 2025, j'ai l'honneur et l'avantage de recevoir le directeur artistique du festival, l'organiste Yves Rechsteiner, avec qui nous allons nous plonger dans un très copieux agenda.
Mélomanie, l'agenda.
Bonjour Yves et merci d'être encore une fois au rendez-vous de Mélomanie, une émission dont vous êtes un habitué depuis que je l'ai lancée il y a maintenant 8 ans.
Tout à fait, bonjour.
Le festival Toulouse des Orgues a lui été créé bien plus anciennement que l'émission Mélomanie, puisque c'était en 1996. C'est donc la 30e édition du 1er au 12 octobre. C'est incontestablement un moment important pour une manifestation, quelle qu'elle soit, d'atteindre ce cap. Est-ce que cet anniversaire va être célébré dans la programmation par des événements particuliers ou par une thématique générale qui lui serait propre? Il me semble avoir décelé, repéré, que vous y faites la part belle aux jeunes musiciens et que vous l'avez ouverte peut-être encore plus que les années précédentes à des associations entre l'orgue et d'autres instruments, voire d'autres formes musicales que le classique stricto sensu.
Alors c'est effectivement une question que je me suis posée au moment de fêter et décider comment nous allions fêter ces 30 ans. Et je trouvais que sur le fond, il y avait deux attitudes possibles. Soit valoriser tout ce qui avait été fait pendant ces 30 années, ce qui était l'occasion par exemple de réinviter des artistes ou de faire la part belle à des projets qui avaient eu lieu dans le passé. Et en fait, j'ai opté pour l'inverse, c'est-à-dire plutôt regarder en avant. Et en faisant ça, je décidais en fait d'inviter un peu les musiciens qui allaient faire l'orgue dans les années à venir, donc les gens qui sont aujourd'hui au début de leur carrière, mais qui ont déjà en fait une reconnaissance qui font qu'ils ont toute leur place dans ce festival, dont je rappelle quand même qu'il a une place très particulière. C'est à la fois un festival de Toulouse qui a une grande implantation locale, après 30 ans évidemment c'est assez normal, mais c'est aussi un festival qui est regardé dans le monde de l'orgue, puisque la plupart de mes collègues disent « bah oui, Toulouse les orgues, c'est le plus grand festival d'orgue », et après je vous laisse compléter, en Europe, au monde, sur la planète, dans le cosmos. Donc c'est vrai qu'on a valeur de référence et donc c'est assez important que la sélection des artistes ici ait une importance symbolique forte pour l'ensemble du milieu. Et donc cette année, effectivement, j'ai invité pas mal de jeunes organistes, pas mal de France, ce qui est aussi une manière indirecte de rendre hommage à cette école française de l'orgue, c'est-à-dire ces classes d'orgue qui recrutent à un très très haut niveau et qui font sortir des promotions de jeunes organistes qui ont effectivement un niveau musical extraordinaire. Et puis après aussi, bien sûr, des organistes qui viennent de l'étranger et qui donnent un peu le panorama de ce qui se fait dans notre milieu.
Des hommes et des femmes d'ailleurs, on voit que c'est un instrument qui a l'air de se féminiser comme d'autres.
Oui, alors effectivement, c'est une année où nous ne sommes pas loin de la parité. Je crois que même nous sommes à la parité, ce qui est quand même pas rien, parce que, soyons tout de même honnêtes, même si on tend vers la parité, nous, programmateurs, on est quand même tributaire d'une réalité de terrain. Et pour moi, par exemple, une image qui renvoie à cette réalité, ce sont les lauréats des concours. Et il faut quand même bien le reconnaître, si vous prenez les podiums des concours d'orgue internationaux, les hommes, ils sont encore largement majoritaires. Et je dirais que si on est sur une proportion de trois quarts d'hommes, un quart de femmes, c'est à peu près
la
moyenne de ça. Donc forcément, ça veut dire que nous, si on est à la parité en termes de programmation, on pousse un tout petit peu en avant les artistes femme, et je l'assume tout à fait, pour justement aussi donner à chacune, dans un début de carrière, toutes ses chances. Souvent dans les classes, Il y a presque autant de filles que de garçons. Mais c'est après, dans le démarrage des carrières, que là, peut-être que tous n'ont pas les mêmes chances, ou en tout cas, n'accèdent peut-être pas à une visibilité de la même manière. Donc voilà, effectivement, une édition jeune, assez égalitaire entre les sexes, puisqu'on ne parle que de ce critère-là. Mais je le souligne, ça n'est qu'un critère, puisque un festival, j'allais dire, c'est des jeunes, c'est des vieux, c'est des Toulousains, des Français, des gens qui viennent des autres pays, d'une variété d'autres pays. Pour moi, ce sont tous ces critères-là qui me permettent de sélectionner de façon harmonieuse les artistes du festival.
Eh bien, nous allons justement nous plonger maintenant dans la programmation de ce festival 2025, concert d'ouverture ce mercredi 1er octobre à 20h à la Basilique Saint-Sernin, sur le Grand Cavaillé-Colle, avec un duo inattendu, d'instruments en tout cas que l'on a rarement l'occasion d'entendre ensemble, l'orgue et le piano. Au piano, Maroussia Jantet, et à l'orgue, Lucide Dollard. Voilà, une jeune organiste justement. Est-ce que c'est vraiment aussi peu commun qu'on pourrait le croire, un duo piano-orgue en concert, Yves ?
Alors oui, quand même, en concert, c'est pas si fréquent, pour plusieurs raisons. D'abord, le répertoire est un répertoire qui s'est plutôt écrit au XXe siècle. Donc les pièces que l'on joue d'avant sont généralement des transcriptions d'orchestre. Donc là, on aura Mazeppa de Liszt dans une version piano-orgue. Et puis après, c'est surtout que la configuration orgue et piano requiert une certaine géographie. Alors, une géographie sonore, faut se méfier, l'orgue, c'est assez fort.
Et oui, c'est puissant.
Le piano, ça peut l'être, mais dans une certaine limite. Et après, une géographie spatiale, puisque forcément, il faut que les deux instruments soient un peu proches pour qu'il y ait une fusion des timbres. Et alors, c'est très facile d'avoir dans une salle de concert. Si vous avez un grand orgue à l'arrière, vous mettez un piano devant, c'est facile.
Mais dans une église...
C'est pas si évident. Donc là, je tiens à le dire, voilà, on met quand même en place un podium sous le grand orgue Cavaillé-Colle de Saint-Sernin. Il y a tout un dispositif, donc il y a un petit effort technique derrière pour éviter que le piano ne se perde un peu sur la longueur de la basilique. Donc voilà, on fait tout ce qu'on peut pour que vraiment le confort de l'écoute soit maximal.
Vous l'avez dit, donc il y aura une œuvre de Franz Liszt. Quels sont les autres compositeurs au programme ?
Alors, de mémoire, il y a du Jean Langlais, il y a du Thierry Esquèche et également Prélude, Fugue et Variation de César Franck.
Et je crois qu'il y a du Maurice Ravel.
Exact, il y a un extrait du concerto pour piano.
Donc ça, c'est le concert d'ouverture le 1er octobre à 20h à la Basilique Saint-Sernin avec Maroussia Jantet au piano et Lucile Dolla à l'orgue. Autre grand concert dès le lendemain à 20h sur l'orgue Puget de l'église Notre-Dame de la Dalbat, cette fois-ci, donné par un organiste très réputé, le Britannique Roger Sire, qui a enregistré la bande originale du film Interstellar de Christopher Nolan. Il va jouer des extraits des planètes de son compatriote Gustav Holst et donc ses propres versions de la musique composée par Hans Zimmer pour le film de Nolan. Ça y est, c'est un moment fort à venir pour les cinéphiles et les amateurs de musique de film.
Oui, puisque finalement, ce film Interstellar, ça fait partie de ces films qui ont boosté un peu un instrument. Pour ceux qui connaissent les films des années 80-90, il y a eu ce même phénomène pour Tous les matins du monde.
Oui, et la viole de gambe.
Qui a popularisé la viole de gambe. Et c'est vrai que l'orgue, qui reste un instrument quand même un peu de niche, pas forcément connu par une majeure partie de la population, au travers d'Interstellar, les gens ont vraiment entendu de l'orgue à tuyaux et du coup, il y a vraiment eu un phénomène de musique populaire. Et donc là, on a la chance d'avoir l'organiste qui joue sur la musique du film et qui du coup partage aussi un tout petit peu au travers d'une vidéo qui sera diffusée pendant le concert et d'un bord de scène à la fin du concert. Il partage un peu, je dirais, son vécu, l'expérience, comment s'est passée la collaboration avec Hans Zimmer et Christopher Nolan. C'est un peu un package, c'est pas juste un récital d'orgue avec la musique d'Interstellar, mais c'est vraiment un peu une rencontre avec Roger Sire et puis tout un peu le make-off de la musique.
Eh bien, nous allons pouvoir écouter un extrait de cette bande originale composée par Hans Zimmer pour Interstellar. Il est intitulé Cornfield Chase et joué par Roger Sire. Cornfield Chase, extrait de la bande originale composée par Hans Zimmer pour le film Interstellar, joué donc ici par Roger Sayer. Le grand organiste britannique est en concert le jeudi 2 octobre à 20h à l'église Notre-Dame de la Dalbade. Et puis, première nuit du Jésus, ensuite, le même soir à 22h30. Voilà un rendez-vous que vous avez instauré au festival depuis quelques années. Et là, vous avez invité pour ce concert l'organiste et compositrice américaine Kelly Malone. Elle va interpréter plusieurs titres de ses albums All Life Long et The Sacrificial Code, certains où elle est accompagnée par le guitariste et compositeur Stephen O'Malley. À quoi ça ressemble, Yves? Parce que vu comme ça, difficile de se faire une idée.
Oui, alors Kelly Malone fait partie de ces musiciens, et surtout musicienne d'ailleurs. On a invité les années précédentes Hélène Arkbrot et d'autres artistes du même genre, qui sont en fait des musiciens qui viennent plutôt des musiques expérimentales, électroniques, drones, enfin voilà, après il y a plusieurs variantes, et qui s'intéressent à l'orgue à tuyaux pour ses caractéristiques acoustiques. Ce sont souvent d'ailleurs des musiciennes qui font pas mal de travail sur la justesse, le timbre, donc qui travaillent vraiment l'orgue comme un objet sonore. Et du coup, elles ont une musique, et Kelly Malone ne déroge pas à ce principe, assez planante, assez méditative. Alors les pièces de Kelly Malone, qui sont des pièces souvent un peu de 5-10 minutes comme ça, ont finalement un langage harmonique pas si expérimental que ça. Quelquefois, ça rappelle un peu des musiques modales, pour ceux qui sont familiers de cette terminologie. Mais par contre, sur finalement des timbres qui sont extrêmement tranquilles, on n'est pas du tout... Alors, il n'y a aucune musique pulsée, il n'y a aucune musique avec beaucoup de volume. Elle joue en acoustique, il n'y a rien qui soit amplifié. Et donc finalement, et ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on a quelqu'un qui vient un peu des musiques amplifiées, de la scène des musiques actuelles, et qui joue dans une église de façon acoustique une musique extrêmement méditative, dans une ambiance en fait très 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 intérieure. Et voilà, c'est un peu comme ça qu'on pourrait le décrire, et Kelly Malone a une grande réputation, et je peux dire qu'effectivement ça se ressent au niveau des ventes, où les réservations partent très bien.
Voilà, donc c'est à l'église du Jésus, nuit du Jésus, à 22h30 le jeudi 2 octobre avec Kelly Malone. Et le lendemain, vendredi 3 octobre, deux concerts en une soirée. Le premier a lieu à 20h au Centre culturel des Mazades. Il est sous-titré Rock the Organ. Et vous êtes bien placé pour en parler puisque c'est vous qui allez le donner sur votre orgue démontable et remontable, heureusement, l'Explorateur, avec votre ami percussionniste Henri-Charles Caget et le guitariste Frédéric Morin, guitariste guitare électrique. Hein. Quel tube du rock va-t-on entendre ce soir-là? Parce que vous aviez donné déjà ce programme en 2016. Ce ne sera pas la même chose. Hein.
Voilà, en fait, je me suis permis là de nous reprogrammer ce trio pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'en fait, le trio que nous formons maintenant depuis 10 ans, c'est un anniversaire, il s'est formé à Toulouse-les-Orgues en 2014, il s'est développé en 2015, donc voilà, ça fait pile 10 ans, qu'effectivement, on a eu une activité musicale assez riche sur ces 10 années, on a développé plusieurs programmes, ce qui fait qu'effectivement, les pièces qu'on joue là aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec celles de 2014 ou 2015. Au départ, c'était Frank Zappa. Là, on est plutôt en fait sur des groupes de rock progressif. Donc, on a le groupe Yes, on a Genesis, on a le guitariste Pat Metheny et on reprend quand même la première partie de Tubular Bells de Michael Field. Là, en version trio. Et là, on sera au Théâtre des Mazades avec l'Explorateur. En fait, nous, on a vraiment changé le son du groupe avec cet orgue. Pourquoi ? Parce que les tuyaux sont sur scène. Il y a une immédiateté du son de l'orgue qu'on ne peut pas trouver dans une église où le son est beaucoup plus diffus, avec un peu de latence. Et donc là, le côté rock péchu rythmique est encore beaucoup plus présent grâce justement au fait qu'on est tous avec notre matériel musical sur la même scène.
Ouais, je pense qu'effectivement, la scène du Centre culturel des Mazades se prête très bien à un programme de ce genre. On va pouvoir, là encore, vous écouter avec Henri-Charles Caget et Frédéric Morin dans votre version de Red, un morceau du groupe Kim Crimson. We'll be right back. Red, morceau du groupe King Crimson dans une version orgue, percussion et guitare électrique du trio Yves Rechsteiner, Henri-Charles Caget et Frédéric Morin en concert le vendredi 3 octobre à 20h au Centre culturel des Mazades pour le programme Rock the Organ et le même soir à 20h30, concert orgue et chant traditionnel, là on change complètement de registre, il est donné à l'église Saint-Martin de Portet-sur-Garonne par la chanteuse Mathilde Lalle et l'organiste italien Giulio Tosti. C'est un programme qui avait déjà été créé l'an dernier si je ne me trompe pas.
Oui, tout à fait. C'est donc un programme qui est né en 2024. Et justement, ce qu'on essaye de faire à Toulouse les orgues, parce qu'on fait pas mal de créations, c'est de donner à ces créations un peu plus de diffusion après.
Qu'ils aient une vie, quoi, derrière.
Voilà. Parce que quand même, une création, c'est souvent beaucoup de temps, beaucoup d'investissement de la part des musiciens. Et donc, en fait, on est très heureux que ce programme ait, on va dire, un certain succès auprès des partenaires avec qui on travaille. Quand je parle de partenaires, je parle donc de collectivités qui sont autour de Toulouse. Là, on est à Portet-sur-Garonne. Mais nous travaillons régulièrement avec les communes de Launaguet, de Fronton, de Saint-Lys, de Tournefeuille. Et donc, je leur propose des programmes. Quelquefois, je leur propose plusieurs programmes différents. Et donc, ils choisissent ou ils prennent les propositions. Et là, ce programme orgue et chant traditionnel occitan a rencontré pas mal d'intérêt. Et donc, il sera donné plusieurs fois dans le cadre du festival, dans des villes, justement, qui sont un peu en bordure de Toulouse.
Alors, effectivement, outre ce concert à l'église Saint-Martin de Portet-sur-Garonne, le vendredi 3 octobre à 20h30. Il y a également un concert le samedi 4, le lendemain à 20h à l'église de Sainte-Gabelle. Là, on s'éloigne vraiment de Toulouse.
Tout à fait.
Et puis, il y en a un autre le dimanche 5 à 17h à l'église de Fronton, dont vous parliez il y a quelques instants. Mathilde Dalle, peut-être la présenter. Giulio Tosti, il y a des années qu'on le voit maintenant à Toulouse-les-Orgues. Mais Mathilde Dalle, chanteuse occitane, mais qui joue aussi, je crois, d'une cornemuse landaise qui s'appelle le boa.
Oui, alors là, vous me prenez sur un domaine qui n'est pas ma spécialité, mais c'est vrai que Mathilde est active sur Toulouse. Ils se sont rencontrés avec Giulio. Alors, comme souvent, les musiciens traditionnels, ils sont polyinstrumentistes. Donc, à la fois, ils chantent, ils jouent également d'un instrument. Et effectivement, elle joue de la cornemuse, qui est un instrument qui se mélange très bien avec l'orgue, parce que c'est un timbre un peu rauque qui est un peu en résonance avec certains des jeux d'anches de l'orgue. Donc, je les ai effectivement entendus et ça sonne très bien. Il y a une très belle fusion de timbres.
On va en avoir un aperçu avec l'extrait qui va suivre où on entend justement ce boa, cette cornemuse landaise dont joue Mathilde Lalle, qui chante ensuite une pièce intitulée « Autant » du nom du vent qui souffle souvent à Toulouse. Et elle est accompagnée à l'orgue par Giulio Tosti. temps chanté par Mathilde Lalle, accompagnée par l'organiste Giulio Tosti, qui donne donc leur concert orgue et chant traditionnel vendredi 3 octobre à 20h30 en l'église Saint-Martin de Portet-sur-Garonne. Et je rappelle qu'il le présente aussi le samedi 4 octobre à 20h à l'église de Sainte-Gabel et le dimanche 5 à 17h à l'église de Fronton. Le samedi 4 octobre, nous allons au temple du Salin à Toulouse. Il y a un hommage à Jimi Hendrix proposé à 20h par le Hot Orgel Trio. Encore une proposition insolite. Qui sont les musiciens qui forment ce trio et avec quels instruments ?
Oui, alors le trio Hot était venu il y a déjà quelques années à Toulouse, les orgues. Ils avaient déjà joué au Temple du Salin. Alors le trio est composé de Dion Nyland, contrebasse, de Stephen Kamperman, clarinette, différents types de clarinette, et surtout de l'organiste Barry Van Berkum sur l'orgue à tuyau. Et en fait, cette année, ils viennent paradoxalement en quatuor avec un violoncelliste catalan, Pau Massafretz. Pareil, j'allais dire un peu comme notre trio Anno sur les musiques rock, eux ils font un travail vraiment sur le jazz qui est un travail au long cours. Pourquoi j'insiste là-dessus ? C'est parce qu'en fait, quelquefois il y a des projets ponctuels où vous réunissez des musiciens pour une expérience ou pour une performance, alors que là on a vraiment des formations constituées qui ont une histoire sur 10 ans, sur 15 ans, et qui donc vraiment développent un son, une identité propre. Et c'est vrai qu'il n'y a aucun équivalent. Donc en fait je suis un peu leur activité, et donc leur dernier projet c'est un hommage à Jimi Hendrix. Alors évidemment, Jimi Hendrix guitare, et donc il n'y a pas de guitare non. Dans le programme, hein, je m'empresse de le ressouligner, mais comme souvent dans les musiques jazz, en fait, on s'empare d'un thème, on s'empare d'un standard, et puis après, on le retravaille à sa sauce, et donc là, dans cette formation, avec le violoncelle, l'orgue, et donc cette identité un peu particulière, où on va avoir des thèmes de Jimi Hendrix, mais on va avoir beaucoup d'improvisation et puis de développement du trio.
Le Hot Orgel Trio, donc le trio sera quatuor cette fois-ci, le samedi 4 octobre au Temple du Salin pour un hommage à Jimi Hendrix à 20h. Dimanche 5 octobre à 17h, nous allons à la cathédrale Saint-Étienne sur le magnifique orgue en hirondelle. Et nous allons avoir la chance d'entendre deux merveilleux organistes, Michel Bouvard et François Espinasse, dans un programme dédié à Nicolas de Grigny. Nicolas de Grigny qui était organiste lui-même et qui était surtout le grand compositeur pour orgue de l'époque baroque en France. La particularité de ce concert, c'est que le chœur antiphonat de Rolandas Muleka va se produire avec eux. Comment tout ça va se mettre en place ?
Alors, c'est une pratique en fait qui se fait quand même déjà depuis pas mal de temps et qui reflète la liturgie de l'époque. Dans la messe au XVIIe et au XVIIIe siècle, il y avait ce qu'on appelle une alternance. Donc les différents versets des mélodies grégoriennes étaient joués une fois à l'orgue, une fois chantés par les chanteurs, une fois à l'orgue, etc. Donc en fait, le répertoire d'orgue, par exemple ces hymnes et messes de Grigny, c'est écrit dans cet esprit-là. C'est-à-dire que Grigny, il avait en tête que la première pièce, qui sont des pièces du coup très courtes, hein, qui durent une deux minutes, elle fait ensuite place à la même mélodie chantée par un groupe de chanteurs, puis c'est la deuxième pièce d'orgue, etc. Donc ce système d'alternance, on le recrée simplement grâce à la présence de l'ensemble antiphona, et ça permet aussi d'avoir peut-être une plus grande richesse qu'un simple récital d'orgue solo. Donc là, il y a les pièces d'orgue de Grigny, mais cette alternance vocale. Et peut-être préciser aussi une chose, nous avons deux organistes inscrits sur le programme, Michel Bouvard, que tout le monde connaît, et François Espinasse, qui est mon collègue professeur au CNSM de Lyon. Alors bien sûr, ils ne jouent pas ensemble, ils se sont partagés l'œuvre et le concert. Globalement, chacun
c'est
joue...
Équilibré. Voilà. Alors il faut préciser que le programme est tiré du CD Nicolas de Grigny, Messes et Hymnes, que Michel Bouvard et François Espinasse ont enregistré et fait paraître il y a moins d'un an sous le label Château de Versailles Spectacle dans la collection L'âge d'or de l'orgue français, enregistré sur le grand orgue de la Chapelle Royale de Versailles.
C'est ça.
Michel Bouvard est un des co-titulaires.
Exactement, donc il y a une actualité discographique et il y aura également
une dédicace
du CD à la fin du concert.
Et bien voici un extrait de ce CD Nicolas de Grigny, Messes et Hymnes, que Michel Bouvard et François Espinasse ont enregistré sous le label Château de Versailles Spectacle. Il s'agit du premier Kyrie de la messe composée par Nicolas de Grigny.
Thank you.
le premier kyrie de la messe composée par Nicolas de Grigny, un extrait du CD Nicolas de Grigny, messe et hymne, enregistré par Michel Bouvard et François Espinasse sous le label Château de Versailles Spectacle. C'est donc le programme de ce disque qu'il donne avec le chœur Antiphona, dimanche 5 octobre à 17h à la cathédrale Saint-Étienne, et ce même dimanche 5 octobre à la basilique Saint-Sernin. Il y a une messe en musique à 18h30 avec les musiciens et chanteurs de la Scola Cantorum, l'ensemble attaché à la basilique, tout ça placé sous la direction de Jean Percy et accompagné à l'orgue par Elliot Bembekov et Étienne Berny. Quelles œuvres sont au programme, Yves? Alors, il y a la messe solennelle en une dièse mineure de Louis Vierne.
Oui, c'est ça. C'est une œuvre unique puisque la messe en musique, c'est donc bien la messe de 18h30 dont simplement la partie musicale est un peu rehaussée par la participation de la Scola pour l'occasion. Et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de... J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de j'allais dire du public, c'est peut-être pas la bonne expression, mais c'est une messe, on va dire, qui est très fréquentée, justement parce que la partie musicale est un peu plus mise en valeur. Et donc la messe de Louis Vierne, c'est une messe pour deux orgues. Le chœur chante dans le chœur de la basilique, accompagné concrètement par l'orgue de chœur qui se trouve donc dans sa proximité immédiate. Mais le grand orgue fait un peu répond. Alors, c'est toujours une grande prouesse parce que les deux instruments sont très éloignés. Mais Vierne, il a écrit sa pièce pour cette configuration-là. Donc, l'orgue fait des interventions ponctuelle, extrêmement impressionnante parce que souvent assez massive. Et après, c'est l'orgue de chœur qui se fond dans la masse des chanteurs pour les parties vocales.
Le mardi 7 octobre, je signale d'abord qu'il y a 10h30 une rencontre avec la jeune organiste Alma Bettencourt à la librairie Croque-Note, une jeune organiste qui se produit en récital le lendemain, mercredi 8 à 20h, sur le grand cavaille-école de la basilique Saint-Sernin. Il faut que vous nous présentiez cet organiste de 21 ans parce que c'est très certainement une future grande de l'orgue français.
Oui, alors si elle joue dans le cadre de Toulouse les orgues, c'est aussi le fruit d'un partenariat avec le festival et le label Rocamadour Musique. Ce label donne l'occasion à un étudiant en master du CNSM de Paris de présenter un programme et concrètement de l'enregistrer sur un orgue à Toulouse. Elle a effectivement enregistré son disque à Saint-Sernin fin 2025. Le disque sort cette année.
2024.
Je suis déjà en avance d'une année. Terrible. Il y aura le vernissage du disque à l'occasion de ce concert mercredi 8 octobre. Alors, présenter Alma, évidemment, quand on dit qu'elle a 21 ans, forcément, c'est un parcours très jeune encore. Mais elle a une particularité très rare. Elle est dans les deux classes de piano et d'orgue du
CNSM de Paris.
Alors, quand on connaît le niveau de sélection et le niveau demandé à l'entrée, c'est déjà une prouesse, tout simplement. Et c'est vrai qu'elle a du coup cette double casquette qui fait que son quotidien doit être assez chargé, je suppose. Mais elle a vraiment une très, très, très grande musicalité. Et bon, son professeur Thomas Hospital m'en a parlé vraiment de façon extrêmement élogieuse. Donc, je suis extrêmement heureux de la recevoir. Et donc, elle a fait pour ce disque un choix qui est extrêmement pertinent. Elle enregistre l'œuvre d'un élève de Franz Liszt, Julius Raupke, qui est quelqu'un qui est mort très jeune à 34 ans et qui a laissé pas grand-chose, mais quand même une énorme sonate de piano et une énorme sonate d'orgue. Quand je dis énorme, c'est des pièces de...
Cette sonate d'orgue est très connue par les organistes.
Hein. Exactement, c'est quand même des pièces d'une demi-heure chaque fois. Et donc, en fait, avec ces deux sonates, elle a fait un CD, puisque donc elle le joue respectivement au piano et à l'orgue. La sonate d'orgue est enregistrée à Saint-Sernin. Vous l'entendrez donc dans le cadre de ce concert le mercredi 8.
Voilà, donc il y aura aussi des pièces de César Franck, de Max Reger et de Maurice Duruflé. Donc le disque des sonates pour piano et sonates pour orgue de Julius Raupke a été enregistré pour la partie orgue sur le cavaille-école de Saint-Sernin sous le label Rocamadour Musique Sacrée. Je précise qu'Alma Bettencourt a été l'élève pendant un an de Michel Bouvard au CNSM de Paris, dont nous parlions donc il y a quelques minutes, et aussi ensuite d'Olivier Latrie et Thomas Hospital que vous évoquiez également. On écoute le début de la sonate pour orgue en ut mineur, psaume 94 de Julius Raupke, sous les doigts d'Alma Bettencourt. Le début de la sonate pour orgue en ut mineur, psaume 94 de Julius Röpke, joué par Alma Bettencourt, un extrait de son CD paru sous le label Rocamadour Musique Sacrée. Alma Bettencourt est en récital le mercredi 8 octobre à 20h à la Basilique Saint-Sernin. Il y a deux concerts en soirée le jeudi 9 octobre et d'abord le traditionnel ciné-concert à 20h à Notre-Dame de la Dorade, donné par l'organiste Sébastien Heindel, qui accompagne un film britannique tourné en 1929 par un certain Maurice Helvey et qui a pour titre français Point Natura, le sixième commandement.
Oui, alors c'est vrai que je rappelle toujours que le ciné-concert est organisé en collaboration avec la Cinémathèque de Toulouse. Donc, ce sont mes collègues de la Cinémathèque qui me proposent des films. Et donc là, ils m'ont proposé un film dont ils m'ont dit, et c'est très juste, qu'il y a énormément de résonance avec l'actualité un peu récente. Il y a des questions politiques qui sont évoquées. Le film est un film d'anticipation. Alors, c'est toujours très drôle de voir un film, entre guillemets, de science-fiction de 1929, parce que en fait, on voit tout ce que l'époque projetait sur le futur. Et en réalité, il y a certains éléments, alors bien sûr liés à la technologie, qui se sont concrétisés. Donc c'est toujours très rigolo de voir un peu des véhicules du futur tels qu'on les imaginait en 1929. Donc, côté orgue, Sébastien Heindel est un jeune organiste qui a bénéficié, par exemple, d'une tournée dans toutes les grandes salles de concert en Europe il y a déjà 2 ans, je crois. Donc, c'est quelqu'un qui était vraiment repéré par le milieu classique et qui, par ailleurs, est quand même un profil extrêmement polyvalent. Il fait beaucoup d'improvisation, il fait aussi des projets crossover, il travaille avec les synthétiseurs. Et donc, il n'est pas uniquement un organiste classique, ce qu'il est bien sûr aussi et très reconnu, mais il a aussi comme ça des projets un peu en dehors du classique. Et donc là, il vient comme improvisateur, puisque c'est un des domaines dans lesquels il excelle. Et je me réjouis de le recevoir parce que je pense que là aussi, comme Alma Bettencourt, c'est quelqu'un qui va compter dans les années à venir. Il est d'ailleurs, dernier élément, titulaire d'une tribune assez importante à Berlin, la Gedächtniskirche. Et donc, il organise là des concerts. Et c'est donc aussi un lieu de vie musicale que lui est chargé d'animer déjà.
Concert en partenariat avec la Cinémathèque de Toulouse et également Audisud. Et puis à 22h30, deuxième nuit du Jésus avec Lauriane Liorca à l'orgue et à l'organetto et Sissi Rada à la harpe classique pour un programme sous-titré Jardin suspendu. Bien voilà encore une association d'instruments qui, sur le papier en tout cas, paraît peu commune.
C'est le cas, puisque, alors là, je dois dire que c'est une initiative qui est partie du Festival Les Siestes électroniques, qui en fait font partie d'un programme européen dont le fonctionnement est de mettre en relation des artistes sélectionnés dans l'Europe et des artistes locaux, entre guillemets, sur chacune des villes partenaires. Donc en fait, moi, j'ai recommandé Lauriane Liorca, qui est une organiste qui travaille dans le sud-ouest, et Sissi Rada est une harpiste grecque résidente à Berlin. Et donc, elles se sont rencontrées pour un premier travail de résidence au mois de mai. Elles ont fait le concert d'ouverture des siestes électroniques fin juin. Et donc là, je leur ai demandé de revenir dans le cadre de Toulouse les Orgues, parce que j'aime beaucoup qu'une création et qu'une rencontre se développent dans le temps. Je l'ai déjà mentionné tout à l'heure pour les groupes, par exemple, comme Hot. J'aime beaucoup justement que les rencontres, elles maturent, entre guillemets. Donc tout le travail qui a déjà été fait au printemps entre Sissi et Lauriane va se développer par un deuxième temps de résidence au mois d'octobre et se concrétisera par un programme qui sera donc un petit peu le programme du mois de mai, mais déjà développé, changé, transformé. Donc ceux qui sont peut-être venus les écouter au mois de mai peuvent tout à fait revenir en octobre, parce que même si elles retrouveront certains plaisirs de l'expérience du mois de mai, il y aura vraiment de la nouveauté dans ce concert le 9 octobre.
Donc, deuxième nuit du Jésus à l'église du même nom à 22h30 le jeudi 9 octobre par Lauriane Liorca et Sissi Rada. Et le vendredi 10 octobre à 20h, on revient au temple du Salin pour un concert du compositeur et organiste Thierry Eskech associé au Quatuor Tchaïk, une fratrie de musiciens, un quatuor à cordes formé de 2 frères et 2 sœurs. Ils ont déjà collaboré avec le compositeur et cette soirée va donner lieu à une création d'une œuvre de Thierry Eskech intitulée Prana.
Alors, ce ne sera pas une création en France, Prana, puisque c'est une œuvre qui a déjà été créée il y a 1 an, mais effectivement, plusieurs raisons d'inviter ce programme. Thierry Esquèche est un familier évidemment du festival et des concerts d'orgue en général. Ça reste quand même peut-être un des compositeurs organistes les plus connus actuellement en France, les plus respectés aussi.
Et il est beaucoup joué aussi.
Il est beaucoup joué. Après, le quatuor Tchalik, effectivement, c'est une fratrie. Ils sont donc des jeunes, hein. Je pense qu'ils n'ont même pas 30 ans. Donc, on rejoint un peu mon souci de mettre les jeunes en évidence. Et donc, en fait, la création de Prana, donc cette œuvre de Thierry Esquèche, c'est vraiment le fruit de leur collaboration. En fait, c'est le quatuor Tchalik qui est allé un peu voir Thierry en disant on aimerait bien faire quelque chose avec vous, on aimerait bien une œuvre spécifique, parce qu'il faut bien se dire que le répertoire orgue et quatuor est quasi inexistant. Donc là, on est vraiment dans un mix sonore qui est aussi assez original. Moi, je ne l'ai jamais eu ces 10 dernières années à Toulouse, les orgues. Et donc, c'est aussi une nouveauté d'avoir cette combinaison sonore très particulière. Et l'œuvre de Thierry, Prana, c'est une œuvre vraiment magnifique avec beaucoup, beaucoup d'influences différentes dedans et surtout un incroyable kaléidoscope de timbres. Il utilise l'orgue de façon très subtile. L'orgue commence de façon très éloignée, très mystérieuse. Le quatuor aussi fait des sons tenus. Et après, il y a un immense crescendo, donc on arrive vers quelque chose de beaucoup plus intense. Ça repart après dans quelque chose de plus méditatif. Et l'œuvre est vraiment fascinante, très, très bien écrite, accessible pour ceux qui craignent la musique contemporaine, par toutes les oreilles, y compris les plus fragiles.
Oui.
Mais voilà, c'est un programme de très très grande qualité et d'une grande originalité.
Alors je crois qu'il y a aussi des œuvres de Mozart et Siegfried Karg-Ellert au programme.
Oui, en fait ce qui caractérise Thierry, c'est que quand il fait un programme comme ça, il aime bien mettre un mix de différents types de musique. Donc vous avez du classique avec du Mozart, je crois qu'il y a aussi à un moment donné un quatuor Schubert ou Mendelssohn, j'ai oublié. Et puis après, il y a du Karg-Ellert, qui est une pièce pour orgue et quatuor. Donc en fait, on balaye, il y a des œuvres du 18e, du 19e, etc.
En tout cas, c'est une curiosité hein, de cette programmation 2025, ce concert, le vendredi 10 octobre à 20h au Temple du Salin, avec Thierry Esquèche à l'orgue et le quatuor Tchalik, samedi 11 octobre. Il y a plusieurs rendez-vous, dont un concert en famille à 11h, encore au Temple du Salin. Et puis en fin de soirée, il y a un autre rendez-vous traditionnel du festival, la Nuit de l'Orgue, à la basilique Saint-Sernin à partir de 21h. Cette année, et vous l'avez, alors là, vous avez vraiment joué le jeu, hein, vous l'avez confié à la jeune génération d'organistes. Trois d'entre eux vont s'y produire. Je vais vous laisser le soin de nous les présenter l'un après l'autre.
Alors, William Fielding, qui est un organiste anglais qui a été formé au CRR de Toulouse et actuellement est au CNSM de Paris. Fabrizio Guidi, qui est un organiste italien. Alors, les deux garçons partagent la même caractéristique. Ils sont lauréats du dernier concours d'orgue de Toulouse. Donc en fait, ce concert dans le cadre du festival fait partie de leur récompense ou de leur prix du précédent concours d'orgue. Et j'ai souhaité également réinviter Wani Lin, qui est une organiste qui a étudié à Toulouse en Erasmus, qui avait fait un très très beau concert l'année passée pour les étudiants. Alors le concert pour les étudiants est un concert privé réservé aux étudiants de la ville. Et comme elle avait vraiment fait un super programme, j'ai souhaité qu'elle revienne, puisque là du coup elle reprendra des pièces, mais pour tout le public de Toulouse les orgues dans cette nuit de l'orgue. Et en ayant ces trois profils, j'avais également l'idée que chacun montre un peu ses goûts et ses envies personnelles pour donner une idée de les jeunes organistes aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils jouent. Donc William Fielding, on est sur du symphonique français plutôt. Fabrizio Guidi fait à la fois des improvisations et du symphonique italien qui est quasi inconnu chez nous. Hein, c'est quelque chose vraiment qu'on joue très peu chez nous. Et Wani Lin, elle fait à part égale des transcriptions de musique de film et de la musique d'organiste. Donc en fait, on aura cette variété. Et puis après, je leur ai tendu une petite perche. Je leur ai dit, vous voulez pas jouer Libertango de Piazzolla à six mains et autant de pieds? Ils m'ont dit, oui, on va essayer. Donc là, hier soir, je leur ai envoyé un sketch de partition en disant, bon voilà, toi tu pourrais faire ça, toi tu pourrais faire ça. Et on est en train de faire un petit final un peu second degré où en fait, ils pourraient se partager les claviers de l'orgue de Saint-Sernin.
Alors voilà, ça aussi, ça va être très intéressant. Je propose que nous écoutions l'un des trois organistes qui va se produire lors de cette nuit de l'orgue du 11 octobre à Saint-Sernin. Il s'agit du jeune et talentueux britannique William Fielding. Il joue ici le prélude de Morning Star, une pièce de Georg Friesen. Le prélude de Morning Star, pièce de Georg Fresen, jouée sur le Cavaillé-École de Saint-Cernin par William Fielding, un instrument sur lequel il se produit le samedi 11 octobre à partir de 21h pour la nuit de l'orgue du Festival 2025, en compagnie de deux autres jeunes organistes, Fabrizio Guidi et Vanning Lin. La dernière journée de cette 30e édition, dimanche 12 octobre, commence à 10h à l'église du Jésus avec des petits déjeuners en musique proposés par l'organiste Raphaël Oliver autour de ses nouveaux projets de musique de film. Et puis le soir, concert de clôture du Festival 2025 à 17h à la cathédrale Saint-Étienne. Il est donné par l'organiste allemand Albrecht Koch et l'ensemble vocal féminin Siaela. Le programme est mystérieusement intitulé Bax Engram. J'attends avec impatience vos explications, Yves.
Alors c'est vrai que c'est un programme très particulier qui m'a intéressé parce que les gens qui me l'ont recommandé, donc l'ensemble est de Leipzig. Albrecht Koch est organiste à Freiberg, qui est une petite ville où il y a un très très bel orgue historique de l'époque de Bach. La personne qui me l'a recommandé m'a dit, voilà, on a créé ça à Freiberg il y a un an et franchement le public était debout à la fin du concert, il y avait un grand enthousiasme. Alors le principe est le suivant. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un engramme? Voilà, moi je l'ai appris en découvrant ce
engramme,
programme.
Donc c'est Bax engramme.
Alors parce qu'en fait le mot existe en français et c'est le même, c'est engramme. Engramme, c'est en fait un processus de fixation dans le cerveau de nos souvenirs. Alors, je ne vais pas plus loin sur l'aspect scientifique parce que je touche à mes limites, mais si vous voulez, ce qui se produit en fait, quand on vit, c'est qu'on a en permanence dans le cerveau un certain nombre de souvenirs qui se fixent, plus ou moins d'ailleurs, ça je ne vous apprends rien, quand vous vous rappelez ce que vous avez fait il y a un an, vous vous en rappelez plus ou moins suivant la nature des expériences. Et donc là, il y a des compositeurs qui se sont penchés sur ce phénomène-là, ce phénomène de fixation dans la mémoire, en imaginant qu'est-ce que votre cerveau ou votre mémoire retient, par exemple, d'un récital d'orgue de Bach que vous avez entendu. Et donc, en fait, ces compositeurs-là ont essayé d'écrire ou de composer des pièces musicales à partir de ce que pourrait avoir retenu votre cerveau d'une mélodie, d'une trace harmonique, d'un rythme, d'une atmosphère sonore, par exemple. Et donc, en fait, ce programme, très concrètement, va se constituer de pièces d'orgue solo de Bach, jouées à l'orgue par Albrecht Koch. Chacune des pièces sera immédiatement suivie de ses compositions de deux compositeurs italiens qui sont donc liées à l'œuvre en question puisque la composition reprend des éléments de l'œuvre de Bach et bien sûr que les compositions actuelles sont chantées par l'ensemble Siaela. Six femmes, un ensemble de très très grande qualité, elles ont une très très grande activité musicale, elles font beaucoup de répertoires différents, baroque, romantique, etc. Et donc en fait, elles chantent ces pièces contemporaines qui sont systématiquement un reflet, un écho, une émanation de la pièce originale de Bach. Donc en fait, on est tout le temps sur cette espèce de double monde, la pièce pour orgue de Bach, et ensuite son souvenir réinterprété au travers des voix, avec vraiment l'effet magique que provoquent les voix toujours. Il y a même un côté charnel, sensuel, est extrêmement évocateur, et je le redis, l'ensemble vocal est unique. C'est leur première apparition en France également, donc je sais qu'elles ont jamais chanté en France, mais j'espère qu'elles reviendront parce que vraiment c'est un ensemble de premier plan.
Voilà, alors les deux compositeurs italiens que l'on va entendre chanter par cet ensemble allemand, Siaela, sont Laura Marconi et Gianluca Castelli. Et nous allons pouvoir découvrir les voix magnifiques des six chanteuses de l'ensemble Siaela dans une interprétation d'une pièce de cette compositrice italienne contemporaine, Laura Marconi.
Thank you.
Mein Grund, mein Puls, pièce de la compositrice italienne Laura Marconi, chantée par l'ensemble Sciaila, qui donne donc le concert de clôture de Toulouse des Orgues 2025, dimanche 12 octobre à 17h à la cathédrale Saint-Étienne, en compagnie de l'organiste allemand Albrecht Koch. Le programme est sous-titré Bachs Engram. Nous en avons terminé avec cette présentation de la très riche et dense programmation de la 30e édition du festival. Il y en a vraiment pour tous les goûts et de quoi se faire plaisir autour de ce magnifique instrument qu'est l'orgue. Je vous invite à acheter et réserver vos places sur le site www.toulouse-les-orgues.org. Vous trouverez la billetterie en ligne et tout le détail des concerts que nous avons présentés au cours de cette émission. Je rappelle d'autre part que le festival Passion Baroque 2025 se tient du 2 au 12 octobre à Montauban et dans divers lieux du Tarn-et-Garonne. La programmation est consultable sur le site www.les-passions.fr et la billetterie est en ligne à l'adresse www.passionbaroque.festif.net. Je rappelle aussi que les représentations de Thaïs se poursuivent à l'Opéra National du Capitole. Il en reste deux les vendredis 3 à 20h et dimanche 5 octobre à 15h. Les réservations et l'achat des places sont à faire sur le site www.opera.toulouse.fr. Merci beaucoup à Yves Rechsteiner d'avoir été l'invité de cette émission. Je remercie également Jonathan Botello pour la réalisation de ce numéro, dont le podcast est téléchargeable dès aujourd'hui comme d'habitude sur le site web de Radio Présence. Et merci enfin à nos auditeurs de leur fidélité toujours renouvelée à Mélomanie. Excellente semaine musicale à tous.